VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Bion, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. On va en République démocratique du Congo. C'est bien aujourd'hui que le président Félix Tshisekedi est attendu à Lubumbashi. À son arrivée dans la deuxième plus grande ville de la RDC, le chef de l'État congolais tiendra un conseil de défense selon notre correspondant à Lubumbashi, Marval. Au Bénin, la campagne électorale pour le compte des législatives a démarré ce vendredi, mais avant cela, le président Patrice Talon s'est adressé hier aux Béninois. C'était au cours d'une émission diffusée sur la télévision nationale. Le point avec notre correspondante à Cotonou, Jeanette Adandé.
Au cours de cet entretien très attendu par les Béninois, le chef de l'État est revenu sur le système partisan objet de bien de critiques. Pour Patrice Talon, il était difficile pour un chef d'État de bien exercer et conduire sa politique de développement avec une multitude de partis politiques dont les présidents marchands de négociés pour leurs intérêts personnels. En ce qui concerne la non-participation de l'opposition aux législatives, le président de la République a affirmé que ce qui se passe en honneur par le Bénin et qu'il a joué sa partition pour qu'une porte de sortie soit trouvée, à ce qui espérait que son intervention du jeudi soir déboucherait sur la prise d'une ordonnance. Le chef de l'État a répondu qu'on ne prend pas une ordonnance pour fixer un nouvel ordre politique. Je n'ai pas dans mon rôle à remettre en cause un idéal politique accepté par la classe politique tout entière, a-t-il précisé avant d'ajouter qu'il n'a pas le pouvoir de prendre une ordonnance pour dessaisir le Parlement de ses prérogatives. Et pour finir, Patrice Talon a prié la classe politique à ne pas verser dans la violence. Il ne sert à rien de se contenter d'une démocratie aisée qui nous maintient dans le chaos, a-t-il relevé, avant d'ajouter que appeler à brûler le pays parce qu'on ne va pas à une élection n'est pas responsable. Les regards sont désormais tournés vers la campagne électorale et déjà acteurs politiques, la société civile et autres appellent à la promotion de la paix ou des élections sereines et sans dégâts. De Cotonou, Jeanette Adandé pour VOA Afrique.
Des milliers de Mauritaniens ont manifesté jeudi à Nouakchott à l'appel de l'opposition pour exiger des mesures garantissant la transparence de l'élection présidentielle de juin, dont une commission électorale neutre et la présence d'observateurs indépendants. Les manifestants, partis de plusieurs points de ralliement, ont rejoint dans la soirée une place du centre de Nouakchott, conduite par 4 candidats déclarés à la présidentielle issue de l'opposition. Plus de 3 mois après la tuerie de Yergo dans le centre nord du Burkina Faso, justice n'est pas encore faite. Parallèlement, des milliers de déplacés de Yégo sont sans assistance humanitaire et selon le gouvernement burkinabé, cette tuerie a fait 49 morts, tandis que le collectif contre l'impunité, une organisation de la société civile, avance plus de 200 morts. À Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Le 1er janvier, après une attaque armée à Yergo, une bourgade située dans le centre nord du Burkina, la communauté peule locale a été prise pour cible par des villageois Mossi, aidés par des membres de leur groupe d'autodéfense, les Kongliogo. Il s'agit de la plus grave violence intercommunautaire jamais enregistrée au Burkina, selon des spécialistes. 49 morts selon le gouvernement, 210 d'après le collectif contre l'impunité, une organisation de la société civile créée au lendemain de ces massacres. Les services judiciaires avaient pu identifier 130 suspects sérieux. Mais voilà, depuis tout ce temps, rien n'est fait pour rendre justice aux victimes. Les Kongliogo, les présumés auteurs de cette tuerie, règnent toujours en maître dans les localités affectées par la violence.
Nous avons pu dénombrer 210 morts depuis fin janvier. Et jusqu'à présent, en tout cas c'est le statu quo.
Docteur Daouda Diallo, secrétaire général du collectif.
Avec ces 130 suspects qui sont toujours armés, qui continuent toujours avec les autres camarades, milices Kongliogo, qui patrouillent toujours sur le site des déplacés, qui harcèlent toujours les déplacés, qui enlèvent même les déplacés, qui continuent de tuer. Nous estimons qu'il y a un statu quo où le dossier avance très timidement pour les judiciaires. Parce que si rien n'est fait et qu'on n'intimide pas ces groupes d'autodéfense ou ces milices surtout qui sont devenus des milices, ils vont même exterminer les déplacés qui sont actuellement dans les camps parce qu'ils continuent d'aller là-bas et enlever les gens qu'ils veulent.
L'avocat du collectif estime qu'il y a manque de volonté politique à rendre justice aux victimes. Ambroise Farama.
Dans ce drame qui est celui de Yilgo, qui est le drame le plus horrible que nous avons connu et dans lequel donc les personnes sont identifiées, malheureusement là, il n'y a aucune inquiétude plus de 100 jours après. Pourquoi dans le cas de Yilgo, il n'y a rien? Est-ce parce que les Kwanwego sont puissants? Est-ce parce qu'ils sont armés? Ou alors est-ce parce que il y a un calcul politique en arrière qui fait qu'on ne souhaite pas les arrêter? Est-ce que c'est l'échéance de 2020 qui préoccupe? C'est inquiétant.
Autre chose, des milliers de déplacés ayant survécu à la tuerie de Yirgo vivent dans un dénuement total dans les camps de déplacés.
Malheureusement, dans la zone de Kelbo où il y a plus de déplacés, environ 5000 personnes, il n'y a aucune assistance depuis lors.
Bourema Diko, secrétaire chargé des affaires humanitaires du collectif.
À Kelbo, à Belganyangé et à Noralkingal, les déplacés sont laissés à eux-mêmes. Nous lançons un vibrant appel au gouvernement pour qu'ils également fassent la même chose qu'ils ont fait au niveau de Barsalgo et de Foubé, aux populations de Kelbo également qui ne déméritent pas et qui sont des victimes directes des massacres de Yirgo.
Le collectif pense que c'est parce qu'il n'y a pas eu de justice pour les victimes de Yirgo qu'une autre tuerie a eu lieu début avril à Arbinda, dans le Sahel, faisant plus de 60 morts selon le gouvernement et au moins 100 selon le collectif. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Nos infos sur voaafrique.com.
Les contestataires entendent mobiliser massivement lors du premier vendredi de manifestation en Algérie depuis l'annonce d'une présidentielle le 4 juillet. Ils craignent que ce scrutin soit fraudulé et ne serve qu'à conserver le pouvoir intérimaire dont ils réclament le départ. Sur les réseaux sociaux où est née la contestation qui a abouti à la démission d'Abdelaziz Bouteflika, les appels à manifester continuent d'être relayés pour la 8e semaine consécutive. La présidentielle algérienne a été fixée au 4 par le tout nouveau chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah, âgé de 77 ans, figure de l'appareil mis en place par Bouteflika. Le président Omar El-Béchir, qui dirigeait le Soudan d'une main de fer depuis 30 ans, a été renversé hier par un coup d'État dans le sillage d'un soulèvement populaire et remplacé par un conseil militaire de transition pour 2 ans. Jean-Baptiste Galopin, analyste politique, ancien chercheur au Soudan pour le compte d'Amnesty International, donne ici les perspectives pour le pays après le renversement de M. Béchir.
Ce qu'on a vu au Soudan, c'est en fait une tentative d'une partie du régime, de la majorité du régime, de sauver les meubles, d'éviter que le régime entier soit renversé. Et donc, les dirigeants des services de sécurité de l'armée ont décidé de se débarrasser de Béchir. Cette annonce qui a été faite d'une période de transition de 2 ans n'est pas vraiment crédible du point de vue des manifestants, dans la mesure où Ahmed Ibn Aouf, qui a hérité du pouvoir, était très proche de Béchir, qu'il a coordonné des opérations de contre-insurrection très violentes au Darfour au début des années 2000, et par ailleurs que le nouveau régime a annoncé un couvre-feu qui vise donc à pousser les manifestants à rentrer chez eux. La réaction à tout cela a été très rapide. Hein, dans les minutes qui ont suivi l'annonce, les principales organisations de l'opposition ont annoncé qu'elles continueraient à se mobiliser, et la mobilisation reste très forte, avec des dizaines de milliers de personnes à Khartoum. La question aujourd'hui va être de savoir si le régime a encore la capacité suffisante pour réprimer ses manifestants et si les manifestants vont continuer à se mobiliser dans les jours qui viennent. C'est ça qui va vraiment être décisif dans l'issue de cette crise.
Les propos du chercheur français Jean-Baptiste Galopin ont été recueillis par Solomon Fekadou. Tout en saluant un moment historique, le département d'État américain a réclamé une participation des civils au sein du gouvernement. Le peuple soudanais a dit clairement qu'il voulait une transition dirigée par des civils et cela doit se faire plus rapidement que dans 2 ans, a déclaré Robert Paladino, porte-parole de la diplomatie américaine. Il n'a pas précisé si une transition militaire moins longue serait acceptable aux yeux de Washington, alors même que celle-ci est dirigée par Awad Ahmed Ben Auf, jusque-là ministre de la Défense qui fait l'objet de sanctions américaines, tout comme Omar El-Béchir. Les talibans ont annoncé aujourd'hui lancer leur offensive annuelle du printemps, alors que des pourparlers de paix sont en cours tant avec les États-Unis qu'avec des représentants du gouvernement afghan qu'ils doivent rencontrer la semaine prochaine. L'offensive de printemps des talibans marque habituellement le début de ce qui est considéré comme la saison des combats, bien que ces dernières années, ils se soient poursuivis pendant l'hiver. Et puis au moins 16 personnes ont été tuées et 30 blessées aujourd'hui dans l'explosion d'une bombe sur un marché de Quetta, la capitale du Baloukistan, la plus instable des provinces du Pakistan, selon ce bilan communiqué par le chef provincial de la police. Huit des morts appartenaient à la minorité chiite Hazara et l'un des tués faisait partie des forces de sécurité. Les autres victimes sont des personnes travaillant sur le marché aux fruits. Un précédent bilan faisait état de 14 morts et 15 blessés. Aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué l'attentat. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis. Merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.